Europe 1.
14h, 15h.
Clap. Laurie Choleva.
Bienvenue sur Europe 1 pour Clap, votre rendez-vous cinéma. Et cette semaine, émission exceptionnelle en direct de Roland-Garros, puisque Europe 1 est la radio officielle de ce grand rendez-vous de tennis. Et au moment où je vous parle, deux femmes s'apprêtent à s'affronter pour cette finale de Roland-Garros. La numéro 1 mondiale, Iga Świątek, contre l'américaine Coco Gauff sur le court Philippe Châtrier. Alors, cette ambiance dans les tribunes, ce terrain en terre battue, cette pression de la compétition nous ont donné envie de nous mettre dans le bain en nous replongeant dans les meilleurs films sur le tennis au cinéma. Ce sera dans notre première partie. Didier Allouche, bien sûr, depuis Hollywood, nous dira tout ce qu'il faut savoir dans son JT Cinéma. Et puis dans la deuxième partie de Clap, j'aurai le plaisir de recevoir aux alentours de 14h15 l'équipe du film Champagne, Nicolas Vanier, son réalisateur, ainsi que Sylvie Testu et Eric Elmosnino. Ils reviendront sur ce film choral sur l'amitié à l'épreuve du temps. Enfin, je ne suis pas seule, les Nadal et Djokovic du cinéma sont là, Victor Bonnefoy et Franck Vallière, comment allez-vous les garçons?
Très bien, moi je prends Kim Novak Djokovic.
Et moi je serai Nadal, comme ça au moins je suis en finale, moi ça me va très bien.
Parfait, sinon pour parler cinéma, on parle de quoi cette semaine?
Cette semaine on va parler de compétition officielle avec Antonio Banderas et Penélope Cruz, un film qui parle de cinéma et qui est plutôt passionnant.
Une belle mise en abîme effectivement.
Ouais, c'est vraiment pas mal.
Voilà pour le programme réjouissant de votre clap qui commence maintenant.
Europe 1,
clap. Laurie Choleva.
Bob Dylan.
Rassurez-vous, vous êtes bien dans Clap, votre rendez-vous cinéma sur Europe 1. Je 7 et match, générique de dessin animé, chanté par Bernard Minet. Le thème est lancé pour ce Clap très cinéphile, en direct de Roland-Garros à Paris. Et à cette occasion, je vous propose donc de nous replonger dans les meilleurs films sur le tennis au cinéma. Alors c'est vrai, le tennis au cinéma, c'est plutôt rare finalement, mais il y a quand même quelques grands films. Et le premier qui nous vient à l'esprit lorsqu'on parle de tennis sur grand écran, c'est Match Point de Woody Allen, sorti en 2005, présenté hors compétition au Festival de Cannes la même année. Scarlett Johansson face à Jonathan Rhys-Meyer et ce plan d'ouverture mémorable avec cette balle de tennis hésitant à tomber de l'un ou l'autre côté du filet qui donnait le ton de ce film en 5 actes.
Les gens n'osent pas admettre à quel point leur vie dépend de la chance. Ça fait peur de penser que tant de choses échappent à notre contrôle. Dans un match de tennis, il y a des instants quand la balle frappe le haut du filet où elle peut soit passer de l'autre côté, soit retomber en arrière. Avec un peu de chance, elle passe et on gagne. Ou peut-être qu'elle ne passe pas et on perd.
Alors Match Point de Woody Allen, boudé à sa sortie, qui est devenu culte ensuite, un film sur l'ascension sociale. Victor Bonnefoy, c'est surprenant, non, Woody Allen qui s'intéresse au tennis?
Surprenant, oui et non, parce qu'en fait, il va utiliser le tennis pour parler du destin de ses personnages. Et on parlait de cette scène d'intro avec la balle de tennis, pour moi, elle résume tout. C'est-à-dire, c'est un personnage qui va constamment être sur le filet et qui va toujours se demander, est-ce que je vais perdre? Est-ce que je vais gagner? Est-ce que dans mon ascension sociale, je vais gagner des choses ou je vais me renier moi-même? Est-ce que dans mon couple, je vais perdre ou gagner? Est-ce que dans le fait que je flirte et que je trompe la personne avec qui je suis, je vais perdre ou gagner, jusqu'à un dernier acte du film qui tombe dans le meurtre, qui tombe dans l'enquête policière, et même l'enquête là nous dit est-ce que je vais perdre ou gagner. C'est un peu la magie de Roland-Garros aussi qui est mise en abîme, c'est dans vrai. Ce film là, à savoir la balle peut toucher le filet et c'est à ce moment là que tout se joue et c'est à ce moment là que tout se joue dans Match Point.
Et en parlant de destin, il y a aussi celui des sœurs Williams qui étaient tout tracées par leur père avant même leur naissance. Il avait un plan, ça a donné un film qui est sorti cette année, La méthode Williams, qui a permis à Will Smith d'obtenir l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation du père des filles et entraîneur, surtout de ses championnes. Et ça a permis aussi à Will Smith de perfectionner son coup de raquette. Rapport à...
Bon coup droit, voilà. Quand même.
Par rapport au tennis non, ok.
Rapport à la gifle.
Ouais, ok.
La gifle aux Oscars,
oui.
On en a beaucoup parlé.
Je l'avais.
Franck Vallière, vous vouliez nous parler d'un film méconnu de Janusz Metz qui est sorti en 2017 dans un quasi-anonymat, bien que ses personnages principaux soient quand même deux des plus grandes stars du tennis mondial, c'est-à-dire Borg et McEnroe.
Oui, il est temps de réparer une certaine injustice, puisque aussi incroyable que ça puisse paraître, le film n'a été vu en France que par un peu moins de 40 000 personnes. Et ça raconte la rivalité entre ces deux stars du tennis qui se sont affrontés 14 fois en circuit ATP sans jamais arriver à se départager puisqu'ils ont chacun gagné 7 fois. Alors ça, c'est pour le décor. Sur le plan du tennis, les experts vous diront que les matchs sont peu vraisemblables. Mais l'essentiel est ailleurs parce que c'est un film qui permet de plonger dans l'histoire individuelle et intime de Borg et McEnroe, deux joueurs qui apparemment étaient aux antipodes l'un de l'autre, mais qui en fait avaient beaucoup plus en commun qu'on l'imagine. Sauf que l'un était déjà une star au tempérament a priori calme et froid, alors que l'autre était le challenger nerveux et rock'n'roll, McEnroe étant interprété par Shia LaBeouf.
C'est la finale dont nous rêvions tous. Borg, un joueur au parcours de légende, sur qui pèse une pression énorme aujourd'hui. 4 titres à son palmarès, mais le 5e risque d'être encore plus difficile à décrocher.
Silence. Rock'n'roll au service. Vous êtes prêts? Jouez.
On adore le bruit de la balle, c'était très important d'aller jusqu'au bout. Ce qui nous amène à parler de 5e set sorti en 2021, film de Quentin Reynaud avec Alex Lutz, que j'ai adoré, j'ai trouvé Alex Lutz formidable.
C'est un excellent film.
Et là, c'est tout le contraire.
C'est tout le contraire, mais attention parce que c'est la même thématique. Sauf que dans l'un, on avait donc deux mégastars du tennis, alors que dans 5e set, il s'agit de quelqu'un qui ne l'aura jamais été. Mais c'est la même plongée au cœur du réacteur. Alex Lutz, dans 5e set, développe toute la difficulté d'avoir été un espoir qui n'a jamais véritablement concrétisé, mais qui, dans un dernier retour de flamme, va passer les qualifications de Roland-Garros en constatant la désaffection de tout son entourage, dont sa mère, jouée par Christine Scott-Thomas, et sa femme, jouée par Anna Girardot. Quant à Lutz, eh bien, il traballe toute sa mélancolie habituelle, et particulièrement dans ce film-là, c'est celle de celui qui veut encore y croire mais qui n'arrive plus à convaincre ses proches. Et ça parle à vraiment beaucoup de gens.
Alors Thomas, qu'est-ce que tu voudrais faire quand tu seras plus grand?
J'ai envie de gagner un Roland-Garros, c'est tout ce que je veux.
Thomas Edison est toujours resté dans les profondeurs du classement.
Thomas Edison a 37 ans, il sait qu'il n'a pas fini.
C'est aussi un film sur la force du mental, la fameuse remontada, parce qu'il a quand même le corps meurtri. Mais il y arrive, voilà, tout se passe dans la tête.
Et il faut aller jusqu'au bout, parce que les toutes dernières secondes sont magiques.
Ah oui, avec une fin ouverte.
Ah, non, il ne faut pas le dire, il ne faut pas spoiler.
Bon, pardon. Et puis, comment ne pas terminer notre séquence sans évoquer le célèbre diptyque d'Yves Robert? Un éléphant, ça trompe énormément et nous irons tous au paradis. Alors, bien évidemment, ce ne sont pas deux films à proprement parler sur le monde du tennis, mais le scénariste et dialoguiste Jean-Loup Dabadie, passionné de tennis devant l'éternel qui ne manquait jamais un Roland-Garros, avait glissé deux parties de double de tennis resté dans les mémoires de tous les Français, avec notamment cette irruption hilarante de Marthe Villalonga pendant une partie de tennis de son fils Guy Bedos.
Simon, ici.
Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu as sorti les fourrures?
Je m'en vais. Ce matin, je me suis présenté chez toi et l'autre folle, elle m'empêchait de rentrer dans ton cabinet.
Qui, Madame Paquet? Mais c'est normal, j'étais avec Monsieur Simoni.
Ah bon, c'est normal? C'est normal que tu te renfermes avec Monsieur Simoni quand ta mère elle est au bord du gaz.
Maman.
En plus, il n'a rien du tout, celui-là, c'est un comédien. Seulement lui, forcément, il te paye, alors tu le reçois avec des sourires. Mais si maintenant, faut payer pour te voir, dis-le, je savais pas. Combien je te dois?
Arrête!
Arrête, Franck!
Mais quoi? Mais j'ai rien dit, moi.
Je le vois qui trépigne.
Non, mais on peut aussi parler d'autres utilisations de la raquette de tennis, par exemple. Jack Lemmon, dans La Garçonnière, essore, enfin, secoue des nouilles au-dessus de la raquette pour les filtrer. Et ça, c'est pas très orthodoxe, mais quand même.
Mais pourquoi pas?
Ça fait partie du cinéma.
Il y avait de l'idée. Puis on aurait pu citer La Battle des Sexes aussi, qui est sortie en 2017 sur l'histoire de Billie Jean King, joueuse de tennis américaine qui a lutté pour faire reconnaître le tennis féminin à sa juste valeur. Alors lui aussi lutte du côté d'Hollywood pour nous ramener chaque semaine les meilleurs scoops. C'est Didier Allouche, voici son JT d'Hollywood.
Salut Laurie, salut à tous. Ça se passe comment à Roland? Vous avez perfectionné le service, les revers? En tous les cas, ici à Hollywood, on respire mieux. La vache qu'il fait du bien, le triomphe en salle de Top Gun Maverick. Rappel des chiffres, en un peu moins de 10 jours, le film en est à plus de 321 millions de dollars de recettes dans le monde, dont 176 millions uniquement aux États-Unis. En France, il a dépassé les 1 300 000 entrées. C'est de loin le meilleur démarrage pour un Tom Cruise. Au-delà des chiffres, la nouvelle est rassurante pour toute l'industrie du cinéma mondial parce que ce n'est pas seulement le public habituel des gamins fous de Marvel et de super-héros qui remplissent les salles. Non, la démographie est différente, les ados sont là, mais les parents aussi. Les fameux 45-60 ans qu'on avait tellement de mal à ramener dans les salles depuis la réouverture des cinémas. Maintenant, il va falloir les garder dans ces salles. Pour cela, il n'y a pas de secret. Ça passe par la qualité des films. Ce public-là ne se déplace pas pour aller voir des films médiocres. C'est aussi bête que ça. Hollywood sait qu'il va devoir relever un gros défi, celui de la qualité. Ça va donc bouger pas mal à Hollywood.
Et nous, on aime quand ça bouge à Hollywood.
Ah, on aime totalement. Et puis, ce que dit Didier Alouche à la fin, c'est un peu vrai. Ça s'applique aussi au cinéma français, à savoir comment est-ce qu'on peut reconquérir justement les gens, comment on peut les pousser à retourner en salle. Bah, alors, en leur parlant, comme on fait ici, de films de grande qualité. Il y en a toutes les semaines en salle et toutes les semaines, vous avez la possibilité de voir des choses formidables. Allez dans les cinémas parce qu'il fait chaud et il y a la clim.
C'est vrai. Et qu'on peut manger du popcorn
tout
maintenant.
À fait.
Merci beaucoup à Didier Alouche, donc notre correspondant pour Clap à Los Angeles, qu'on retrouve évidemment la semaine prochaine. Surtout, ne bougez pas. Nous sommes toujours en direct de Roland Garros. C'est dans quelques instants, l'équipe du film Champagne sera à mes côtés. A tout de suite sur Europe 1.
Clap.
Laurie Choleva sur Europe 1.
C'est toujours Clap en direct de Roland Garros. Bienvenue si vous nous rejoignez pour cette émission spéciale où va se jouer dans quelques instants la finale femme Iga Świątek contre l'américaine Coco Gauff. Alors cette semaine dans Clap, j'ai le plaisir de parler du film Champagne qui sort le 8 juin au cinéma. Un film choral sur l'amitié, l'amitié à l'épreuve du temps qui passe. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir à mes côtés Nicolas Vanier, le réalisateur, Sylvie Testu et Eric Elmosnino, deux des amis de cette histoire puisque c'est un film de potes, on peut le dire comme ça. C'est aussi ça. Et avant tout, bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Merci d'être là. Comment allez-vous?
Pleine forme.
Très bien. On est content d'être là.
Ah ben moi, je suis ravie d'être avec vous. En plus, ici à Roland-Garros, c'est assez inoubliable. Le tennis, déjà, ça vous intéresse? Je veux pas cafeter, Nicolas.
Ah, moi, ça m'intéresse énormément, mais moi, j'ai vu hier les deux plus beaux sets de ma vie, quoi.
C'était frustrant.
Et c'était, mais. Horrible, horrible à double titre, quoi. Mmh. Horrible, bien sûr, pour ce qui s'est passé, puis horrible pour le sport, parce qu'on était en train de vivre un truc. Enfin, moi, personnellement, j'avais les poils qui se hérissaient. J'étais debout devant ma télé. Je trouvais ça dingue.
Et puis, ce qui est terrible, c'est que c'était très serré. On ne sait pas quelle aurait été l'issue. Bon, maintenant, c'est fait. Mais Eric, en arrivant, Eric Elmosnino, vous m'avez dit, est-ce qu'on peut parler tennis?
Oui, ah oui, j'adore ça.
Donc, Eric est fan.
Ah, je veux bien parler cinéma aussi. Hein. J'adore, c'est vrai.
On va quand même aussi un peu parler de champagne. Hein. Ça en vaut la peine. Je disais, c'est un film de potes qui se retrouvent le temps d'un week-end en champagne. Nicolas Vanier s'est éloigné de votre univers habituel qui est très porté vers la nature. Je rappelle que vous avez réalisé de nombreux films, et comme Belle et Sébastien ou encore Le Dernier Trappeur, vous aviez envie de changement avec ce film?
L'amitié, c'est aussi magnifique que la nature et les animaux, mais c'est effectivement,
j'avais, et c'est aussi présent dans
envie d'explorer explorer ce thème formidable qu'est l'amitié. Et puis, j'ai de plus en plus de plaisir à travailler avec des comédiens, fabriquer des personnages, des histoires. Donc, j'avais très envie de comédie depuis longtemps, et donc c'était une sorte de prolongation, on va dire, naturelle de ce parcours.
Alors, Sylvie Testu, Eric Elmosnino, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce film?
Oh, bah, je pense que c'est les rapports entre amis. Souvent, on dit que c'est une nouvelle famille, les amis. Donc, avec tout ce qu'il y a de hyper positif et parfois d'un peu dangereux, parce que on se déplace, on est toujours le référent de l'autre, donc ça peut poser des problèmes ou des grandes joies.
La famille qu'on choisit, les potes.
C'est ça, exactement. Comme nous, avec Vanier, moi, mon expérience avait été tellement terrible avec lui avant, dans le film d'avant. Ça s'était tellement mal passé que je me suis dit, tiens, je vais y retourner.
Vous avez dit qu'il fallait pas nous inviter ensemble.
C'est ça.
Et comme il n'y avait pas François Cluzet dans le film, je me suis dit, ok, c'est bon, je peux y aller. Du coup, je vais jouer avec des vrais acteurs, donc voilà.
Alors, des vrais acteurs, vous avez raison de le souligner, un super casting. Hein, Stéphane De Groot, Stéphie Selma, François-Xavier de Maison, Elsa Zilberstein ou encore Valérie Carcenti. J'en oublie forcément. Quelles sont les difficultés, Nicolas Vanier, à mettre en scène un film choral?
Bah, disons que la difficulté, c'est qu'il y a beaucoup de comédiens. J'étais d'ailleurs très intimidé par toute cette brochette de talents dont vous parlez. Et lorsqu'on est derrière son combo à la fin d'une scène et qu'il y a deux comédiens qui jouent ensemble, c'est assez facile, on va dire, d'aller les voir ensuite pour leur demander, pour la prise suivante, peut-être de changer, d'améliorer, de proposer quelque chose. Lorsqu'il y en a 10 ou 12, voilà, c'est plus compliqué. C'est plus compliqué aussi à tenir lorsque vous avez 12 personnes qui s'entendent aussi bien, une aussi joyeuse bande que celle que nous avions. Mais ça, c'était surtout formidable. Non, ce qu'il faut surtout sur un film comme celui-ci, c'est beaucoup, beaucoup de préparation et tout de même beaucoup de rigueur dans ce qu'on appelle le découpage pour justement donner libre cours ensuite la joyeuseté qui effectivement s'est dégagée de pratiquement chaque jour de tournage, de pratiquement chaque séquence. Et je pense que c'est vraiment ce qui transpire dans le film, quoi. Tous les spectateurs me disent, cette bande, on n'a pas envie de la quitter, tellement on a envie d'être avec eux, de continuer à être avec eux.
Ah, c'est vrai, on s'attache et puis personne n'est sur le carreau. C'est ça aussi la difficulté, c'est que ce soit très, très équilibré entre tous les les personnages. Je rappelle donc l'histoire, hein, tous ces personnages se retrouvent le temps d'un week-end pour enterrer la vie de garçon de Patrick, qui est joué par Stéphane De Groot. C'est un peu le dernier de la bande à se caser. Et là, donc, et c'est aussi un peu son enterrement de vie de garçon quelque part, mais tout ne va pas se passer comme prévu.
C'est marrant, il n'y a pas de bulle.
Bah non, il n'y a pas de bulle par ego, c'est un vrai clair.
Tiens, je file à la gare.
Oui, il va à la gare.
Et bah ça, c'est cri-cri.
Ah ouais, d'accord. La meuf, tu la mets en blonde, c'est Barbie.
Il y a la moitié en plastique, hein, ça se voit direct.
C'est ça, ouais.
C'est très dur d'arriver dans un clan.
J'ai changé, c'est ça?
Oui, t'as changé, oui. Depuis quand tu mets un fut rose pour me traiter en week-end?
Qu'est-ce qui te dit que c'est Christine qui me fait changer? C'est ça, l'amitié?
Ah bah, c'est... elle est comme ça, hein.
Sylvie Testu, Eric Almosino, ils ressemblent à ça, vos week-ends entre amis?
Merde. Vas-y.
Oh, bah, ils sont festifs. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une situation qui est posée. Et d'ailleurs, je voudrais reparler de la nature quand même, parce que Elsa Zilberstein, oui, son personnage, et celui de Stéphie Selma ont une exploitation. Elles font,
c'est
du
vrai,
champagne. Donc, on est quand même, malgré tout, dans la nature et tout ça. Et donc, mon groupe de potes à moi, on va dire qu'on en fait moins dans les sorties.
Oui, et moins de règlements de compte, peut-être.
Ouais, mais c'est ça qui est drôle.
C'est ça qui est génial.
C'est ça qu'on adore. C'est parce que c'est ça, les amis. C'est-à-dire qu'on peut les aimer malgré leurs défauts, quand ils dérapent ou des choses comme ça. On est agacé sur le moment. Mais ça, c'est plus son personnage à Eric. Qui,
oui,
est comme ça.
Oui, oui, votre personnage, Eric Almosino, c'est Je t'aime moi non plus, avec celui de Stéphane De Groot.
Bah oui, on est
s'adore, amis, mais...
depuis la nuit des temps. On a 14 ans à l'école, j'imagine, et là, il le voit, et il a l'impression qu'il va partir, qu'il va le perdre, qu'il va être abandonné. Donc ça le rend extrêmement agressif au début, ça le rend cynique. Puis après, au bout d'un moment, on comprend que c'est juste de la tristesse, quoi, et du chagrin. Donc, je trouve très beau ce personnage, mais effectivement, au début, ça se voit pas tout de suite, quoi.
Nicolas Vanier, vous êtes inspiré de votre propre vécu?
Disons que j'ai eu cette chance de me retrouver avec 12 de mes meilleurs potes enfermés, en quelque sorte, pendant 5 semaines pour fabriquer une maison. Et pas mal de mes copains me trouvaient par moments en retrait, ce qui n'est pas généralement mon cas, parce que j'étais effectivement une sorte d'observateur à regarder ce que je ne voyais pas nécessairement, parce que j'étais au cœur de la fête, on va dire, à regarder comment mes copains vivaient, s'embrassaient, s'engueulaient, se vannaient, se déplaçaient. Et ça m'a beaucoup aidé, inspiré, parce que j'étais en pleine adaptation justement du scénario.
Alors, Sylvie Testu, votre personnage est à un moment un peu douloureux de sa vie. En
ah,
pleine,
c'est clair,
en
oui.
Pleine, ouais, c'est ça. En pleine séparation, elle a 49 ans, mais elle, pour elle, ça équivaut à 60. Hein, et elle a sa bonne copine, Elsa Zilberstein, qui elle a le sens de la parole pour remonter le moral et qui lui dit de toute façon, ton cul, il décède toujours avant toi.
Voilà, ça, j'adore, oh,
comme
cette
ça,
réplique.
Ouais, moi aussi.
D'ailleurs, elle a hyper bien fait. Oui, en fait, c'est ça, c'est, elle se fait larguer à l'approche de la cinquantaine, et évidemment, elle se projette. Et en plus, Stéphane De Groot va se marier, donc, comme vous l'avez dit, avec une jeune fille qui est absolument splendide et qui a à peu près 15 ans de moins que nous. C'est super énervant.
Donc,
il y a toute la violence, c'est super cruel, en fait, hein, comme elle parle d'elle. Alors que la pauvre, elle est super intimidée. Et c'est un personnage assez, assez joli aussi. Hein. Au début, on a l'impression qu'elle n'arrive que pour son chapeau, sa belle robe. Et en fait, elle est super touchée parce qu'elle est rejetée. Alors que
par cette bande, oui, amie de toujours, c'est la pièce rapportée. C'est dur.
Bien sûr, c'est agaçant quand elle est plus belle, plus jeune. Elle a un plus beau maillot de bain que le mien, en plus, agaçant.
Et c'est de là que tout va partir, d'ailleurs, parce que vous l'accueillez quand même assez mal, tous.
Oui.
Et donc Stéphane De Groot va mal le prendre. Il y a cette phrase dans le film que j'aime beaucoup. J'ai souffert souvent, je me suis trompée quelques fois, mais j'ai aimé. Je crois qu'en plus, tout le monde peut s'identifier à cette phrase.
Ah oui, ça, c'est pas de Nicolas Vanier. Hein.
Non, c'est de vous, Eric Almosino.
Ah non, j'aurais bien aimé. Ouais, non, j'aurais bien aimé.
Non.
Non, c'est Musset.
On s'est beaucoup questionné avec Eric à savoir si on tournait ou pas cette partie un petit peu longue. Et puis on s'est dit, on va essayer, on va le faire. Et puis finalement, ça marche admirablement. Peut-être parce que cet homme-là, que je déteste, a du talent.
Je vous vois pensif, Eric.
Ouais, qu'est-ce que vous voulez que je réponde à ça? Voilà,
merci.
Je prends, hein,
merci,
c'est
je
tout.
Prends,
merci,
voilà.
Merci. Merci, mon vieux, merci. Non, mais c'est bien écrit, c'est beau. C'était beau à dire, en tout cas. C'est magnifique.
Bien sûr. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous, en amitié, pour vous trois?
Ah, waouh, je ne sais pas. Une forme de constance, de fidélité. Bon, ça pourrait être aussi, ça pourrait marcher avec l'amour. D'ailleurs, j'ai l'impression que tous les adjectifs qu'on pourrait trouver peuvent marcher avec la relation amoureuse, au fond. Mais oui, où tu sais que le mec ou la fille peut être là à des moments, dans des moments joyeux ou dans des moments très malheureux, quoi.
Ouais, c'est ça. C'est qu'on s'entende bien malgré. Enfin, voilà, il faut qu'on devienne ami quand on connaît les défauts de l'autre, je pense. On aime aussi les gens pour ce qui n'est pas forcément glorieux chez eux, je crois.
Oui, c'est ça, tolérance, bienveillance et puis pas de lâcheté. Je crois que c'est important aussi, c'est de savoir aussi céder. Et céder, c'est parfois savoir dire des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre.
C'est ce que dit aussi le film, et ça parle aussi des vérités. Est-ce que toutes les vérités sont bonnes à se dire entre amis ?
Non. Il faut justement faire la part des choses, et c'est pas toujours facile. Et parfois, c'est compliqué d'aller parler à un ami pour lui dire ce qu'on a sur le cœur. Mais parfois aussi, il faut savoir ne pas le faire. Donc, ça fait partie de ce dosage qui est pas facile.
Savoir faire le tri. Vous restez à mes côtés, Eric Elmosnino, Sylvie Testu, Nicolas Vanier. Je rappelle que Champagne sort en salle le 8 juin. On va continuer d'en parler. Et puis, on va parler aussi des films de votre vie. Tout ça, c'est dans un instant sur Europe 1.
Europe 1. 14h, 15h. Clap. Laurie Choleva.
Merci d'être à l'écoute de Clap sur Europe 1 pour une émission spéciale depuis Roland-Garros. Et toujours à mes côtés, Nicolas Vanier, le réalisateur de Champagne, qui sera au cinéma le 8 juin, et deux de ses acteurs, Sylvie Testu et Eric Elmosnino. Alors, Champagne, on le disait, un film choral, l'histoire d'une bande d'amis qui se retrouve autour de Patrick, joué par Stéphane de Groot, qui doit présenter sa fiancée, qui malheureusement ne sera pas forcément au goût de son groupe d'amis. Est-ce que vous avez déjà vécu ça d'ailleurs, une présentation un peu gênante ? Soit vous qui présentiez quelqu'un, ou quelqu'un qui vous présente son conjoint et ça passe pas.
Ah, mais c'est toujours un peu compliqué quand il y a une nouvelle personne. On dit d'ailleurs un mot affreux, on dit pièce rapportée, non?
c'est ça.
Affreux. On dit ça dans les familles et dans les groupes d'amis aussi. Donc de toute façon, on juge la personne déjà sur son aspect extérieur quand on la connaît pas.
Oui, et elle est jamais assez bien.
Bah non. La mariée est toujours. On dit toujours qu'elle est trop belle.
Alors, dans Clap, la tradition, c'est aussi de s'intéresser aux films de votre vie, donc à tous les trois. Déjà, est-ce que vous vous souvenez à quel moment le cinéma est entré dans vos vies ?
Est-ce que vous avez moi, très très jeune, très très tôt, rentré dans ma vie, c'est-à-dire où j'ai assisté à un truc qui m'a un peu traumatisé pour le coup. Je crois que mes parents m'ont fait un cadeau bizarre. Ils m'ont emmené voir Il était une fois dans l'Ouest quand c'est sorti.
Vous aviez quel âge ?
J'allais avoir 6-7 ans.
Ah oui, quand même.
Et du coup, et je l'ai revu 25 fois depuis, et toujours la fin du film où il porte son frère sur. Enfin voilà.
Ouais, un peu dur.
Voilà. Donc là, je me souviens très bien. C'était choc. Ouais.
Mais ça reste une grande émotion de cinéma, je suppose.
Oui, c'est vrai.
Nicolas Vanier, vous avez des souvenirs ?
Moi, c'est Jeremiah Johnson.
Magnifique film.
Forcément, par rapport à ce dont je rêvais quand j'étais enfant, j'ai pris une claque énorme. C'était une des premières fois que j'allais en plus dans un grand cinéma. Mes parents m'ont fait ce cadeau-là parce qu'ils savaient déjà que j'étais attiré par tout ce qui est évoqué dans ce film. Mais là, j'ai pris une claque. J'avais mon cœur qui battait. Et 20 ans plus tard, je me suis retrouvé sur un cheval à 4000 mètres d'altitude dans la neige, dans les montagnes rocheuses. Et 20 ans plus tard, je rencontre Robert Redford qui me dit « Oui, je veux bien faire un film avec toi ». Enfin voilà, c'est
magnifique.
Une histoire de dingue. Quoi.
Votre première grande émotion au cinéma, Sylvie Testu ?
C'est l'Effronté, moi. Mais comme beaucoup d'ados, moi j'ai le même âge que Charlotte, et en fait, Claude Miller a écrit un film sur une fille qui n'est pas la plus belle, mais pas la moins belle, pas la plus drôle, pas la plus triste. Moyenne. Et on se sent moyenne quand on a 11 ans, quand on a 12 ans.
Oui, c'est vrai.
Et en plus, on commence à mentir.
On cherche un peu.
Voilà. Et le mensonge, c'est un moyen d'avoir un peu de liberté, non ?
Complètement.
Et du coup, moi, je me retrouvais dans cette gamine, et en plus, j'avais cette marinière. Que ma mère me remettait sur le dos tout le temps dès qu'elle était sèche et que je trouvais horrible. Et lui la met sur une affiche. Et en plus, il y a Sara Perchettiamo dedans.
Magnifique. Wow. Donc là, ça faisait beaucoup de.
Waouh.
Mais est-ce que vous parliez comme ça ?
Mais c'est pas comme ça ! Tu me dis que tu sais, puis tu sais pas ! Je suis sûre que c'est pas comme ça ! C'est pas croyable, on peut rien demander à personne dans cette maison. On peut rien avoir de bien, on peut rien avoir de beau. Je me demande comment vous pouvez vivre ici. Tout est moche ici, tout est petit. C'est petit, c'est moche et c'est tout. Salut.
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 Bien sûr.
César du meilleur espoir, évidemment, pour Charlotte Gainsbourg. Le film qui vous fait le plus rire, tous les trois, Nicolas Vanier.
Ah, moi, je crois que ça a été Les Visiteurs.
C'est OK.
Ben oui, c'est OK hein, pour nous, on prend cette réponse.
Ah ouais, ça va.
Eric ? Une idée ?
J'en sais rien, il y en a plein. Je crois que c'est les Chaplin, donc ça va être compliqué pour les extraits. Pour les extraits.
En même temps, ça va nous faire gagner du temps.
Bah voilà, on est bien
c'est
comme
pas
ça.
Mal. Et Sylvie ?
C'est les Bronzés, moi, à fond du ski.
Ah oui, ça
c'est... J'adore.
Ça, je suis assez d'accord. Je vous avoue qu'on nous le cite souvent dans cette émission.
Mais oui.
Ça reste quand même culte.
Mais évidemment.
Ne serait-ce que cette musique.
Quand on reverrait, pays merveilleux.
Tout de suite dans l'ambiance. Alors, ça me permet de continuer, parce que si je vous demande le film à regarder entre potes, je crois que vous avez répondu.
Bah, Les Bronzés.
Les Bronzés.
Bah oui.
Et cette fois avec cette musique-là. Vous avez le droit de danser, hein, en nous écoutant. Je vous vois rigoler, Rickel Mosnino.
Moi, j'adore Les Bronzés.
Les Bronzés.
Moi, ça aurait été Nous irons tous au paradis, moi.
Ah oui, on en a parlé en première partie de l'émission.
Ah oui. Avec un éléphant, mais Nous irons tous au paradis, c'est plus la référence de film de potes pour moi. Mmh. Ça, c'est une grande référence de film de potes. Ouais.
Et vous, Nicolas Vanier ?
Je suis perdu là.
Et pourtant, vous aviez une très bonne réponse pour cette question. Le film à regarder entre potes, vous avez dit Champagne.
Oh bah, ah
oui, logique.
On se fait un petit peu de...
Bah oui.
T'as raison, tant qu'à faire. Hein.
Tant qu'à faire.
J'étais obligée de vous la poser.
Pas.
Donc, allez entre potes au cinéma le 8 juin. Le film qui vous fait retomber en enfance. Là aussi, hein, c'était bien joué, votre réponse.
Belle et Sébastien. Non, mais c'est vrai. Non, mais moi, j'avais 5-6 ans. Et bon, j'ai quand même passé ma vie avec des chiens, quoi, avec des chiens de traîneau. Et donc, ce film, voilà, évidemment, Belle et Sébastien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que j'en ai fait une adaptation pour le cinéma. Quoi.
Et Sylvie Testu ?
J'ai plus que j'ai
le
dit,
voyage de Chihiro.
C'est Chihiro ou Mononoke ?
Ah, Mononoke ouais. Aussi. Hein.
Les deux, j'ai hésité, mais...
Miyazaki, on aime beaucoup.
Ouais, c'est tellement beau, tout. Je sais pas, j'aime l'ambiance, j'aime ce petit bonhomme, j'aime tout.
Alors là, j'ai envie de vous demander le film qui vous fait pleurer à chaque fois. Déjà, est-ce que vous pleurez facilement au cinéma ?
Mais de plus en plus.
C'est vrai ?
Ouais, en fait, en vieillissant, bah, ça s'appelle comme ça. Hein. Donc,
la sensibilité est plus exacerbée.
Ouais, de plus en plus. Mais le truc qui m'a fait le plus pleurer et qui me fera pleurer jusqu'à la nuit des temps, si je le regarde, c'est L'Incompris de Comencini. C'est impossible. Pour moi, c'est impossible de ne pas pleurer à la fin.
Et on dit souvent que c'est un film quand même destiné...
Ah bon ?
Enfin, que les enfants peuvent regarder, mais c'est vrai que c'est tellement triste et déchirant.
Infernal.
C'est difficile de retenir ses larmes.
Ouais,
du côté de Sylvie Testu, je crois qu'on a aussi un film qui est déchirant.
Bah, c'est Kramer contre Kramer. Impossible, irrésistible. Je pleure à chaque fois. Quand elle lui ferme la porte au nez et qu'il reste derrière et qu'il dit « Mais pourquoi ?» C'est affreux.
C'est affreux.
Affreux.
Et il y a cet extrait aussi qui est terrible.
Ce jour-là, j'ai dû rentrer parce que mon enfant était souffrant. Il avait...
Monsieur Kramer, avez-vous, oui ou non, manqué une date de remise, oui ou non ?
Mon fils était malade.
Monsieur Kramer, répondez à la question.
Mais j'essaye de répondre à la question, ce n'est pas oui ou non. Moi, j'étais là dans
Monsieur
mon service.
Monsieur Kramer,
et lui,
oui ou non ?
Il avait 40 de fièvre à la maison et il était au lit, tout en âge. Je suis rentré pour être avec mon gosse, qu'est-ce que vous auriez fait ?
Monsieur Kramer, je vous enjoins de vous reprendre, sinon je vous condamne pour outrage à magistrat.
5 Oscars, hein, dont meilleur acteur pour Dustin Hoffman, meilleur film aussi, bien sûr. Il y avait Meryl Streep et Dustin Hoffman. Ce duo est incroyable. Si je vous demande votre comédie romantique préférée, Nicolas Vanier, vous vous souvenez de votre réponse ? Out of Africa ?
Ah oui.
Ah, j'aurais dû mettre la musique avant.
Ah oui.
Ah oui,
bien sûr.
Encore une fois, Meryl Streep.
Moi, je ne sais plus ce que j'ai dit, tiens.
Vous avez dit Le Kid de Chaplin,
qui
n'est pas vraiment...
J'ai pas dit comédie romantique, comédie romantique, j'ai dit pour les enfants, le film qu'on conseille aux enfants.
Ah, le film qu'on conseille aux enfants. Alors, j'ai pas votre réponse pour la comédie romantique.
Eh ben, j'en ai pas, alors.
Alors, une comédie romantique ?
Là, tout de suite, La femme d'à côté.
Ah oui.
Oh, c'est un drame.
Ouais, mais c'est quand même romantique, ils s'aiment tellement.
Il y a de l'amour.
Ah oui,
vous auriez dit
tellement beau.
C'est tragique.
Vous auriez dit quoi ?
Moi, je sais pas. Moi, faudrait que je choisisse avec les films du Grand, je crois. Là-dedans, j'adore.
Ah oui,
Ouais, quand il est président de la République et puis qu'après.
Love Actually.
Ouais, voilà.
On aime bien Love Actually. En plus, il y a plein d'histoires croisées. Il y en a pour tous les goûts.
Ouais, j'adore.
Le film que vous avez le plus vu, du côté de Nicolas Vanier ? Les Tontons Flingueurs.
Les Tontons Flingueurs, parce que chaque année à Noël.
Oui, parce qu'il faut vous expliquer que j'ai quand même fait passer le questionnaire en amont pour préparer quelques extraits. Et comme ils sont trois, je me dis ça va aller plus vite si je leur rafraîchis la mémoire. Donc les tontons flingueurs avec cette réplique.
Une fois par an à Noël, je regarde.
Quand ça change, ça change. Faut jamais se laisser démonter.
Vous croyez qu'ils oseraient venir ici ?
Les cons, ça ose tout. Et c'est même à ça qu'on les reconnaît.
Et oui, en même temps, c'est vrai. Et Sylvie, c'était, vous vous souvenez?
Moi, c'est le coup de tête.
Ah, moi, j'avais les morphalous.
Ah non, c'est la réplique. Ah, bah alors, vous savez quoi, vous avez mis des réponses à d'autres questions.
Mais coup de tête, c'est bien aussi.
C'est coup de tête, ouais, que je connais par cœur. Mais non, dans les morphalous, il y a une réplique que j'adore. C'est quand Constantin, il dit à Marie Laforêt, lui dit « Oh ben voilà, votre mari est mort en pissant sur une ligne à haute tension, point final. » Et elle dit « Bah c'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. » C'est ma réplique préférée.
Ah oui, et en même temps, elle est géniale. Et vous aviez une réplique aussi, Nicolas Vanier.
Je m'en souviens plus.
Non, mais bah,
t'as comme à l'école, en fait.
Je vous la fais écouter.
Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.
J'adore.
Eric, vous en avez une qui vous vient en tête. C'est dur, ça.
De réplique. Non, mais moi, j'étais sur le film que j'avais le plus vu.
Ah,
je crois que c'est Mad Max 2, vous imaginez. Au niveau des répliques, c'est calme parce qu'il doit y avoir 3 répliques dans le film. Mais justement, comme on parle de films de potes, bah voilà, c'est les trucs qui nous ont soudés. Je me souviens, on louait la VHS, on louait même le magnétoscope, pour vous dire, pendant un week-end, et on le regardait, mais 42 fois dans le week-end, quoi.
C'est donc, génial, Mad Max.
Voilà, Mad Max 2, ouais, je crois que ça a été...
Ah, le 2.
Ouais, le 2.
Si je vous demande la bande originale de films que vous écoutez pour faire du sport ou pour vous mettre de bonne humeur...
Moi, je crois que j'ai pas répondu à ça.
Alors, moi, j'ai The Eye of the Tiger.
Ah donc, oui, vraiment, s'il fallait mettre quelque
ouais,
chose.
Voilà.
On a tous plein d'énergie, mais je fais de la danse classique quand même.
Ah oui, ça, non, ça marche pas. Parce que j'allais dire, on a tous fait notre footing sur la
musique
de Rocky.
Si je dois faire un footing, je vais mettre ça.
Eric, Nicolas
Moi, ce serait. Bah, ça correspond à un moment à un film qui a cité Sylvie. Ce serait.
C'est coup de tête.
Coup de tête.
Voilà.
Et Nicolas, est-ce que vous vous souvenez de votre réponse?
Je passe.
Elle va te le dire.
C'est bien vous qui avez répondu au questionnaire.
Oui.
Non, mais je plaisante. Mais en plus, vous avez cité un film que j'aime beaucoup. Hein, c'est la midinette qui est en moi. On va écouter tout de suite un petit extrait de Shallow, Lady Gaga, la musique de Star is Born. C'est ce qu'on écoute chez Nicolas Vanier en fond, pour se mettre de bonne humeur le matin. Merci beaucoup à tous les trois, c'était un vrai plaisir de vous recevoir. Je rappelle donc que Champagne sera au cinéma le 8 juin, qu'il faut absolument voir ce film. Qu'est-ce que vous diriez d'ailleurs pour inciter nos auditeurs à se ruer dans les salles de
cinéma? Moi, il y a des spectateurs qui m'ont dit qu'il faut demander à la Sécurité sociale qui rembourse la moitié ou la totalité du billet.
C'est clair.
Tellement ça fait du bien, ça remplace les antidépresseurs, ça remplace des tas de médicaments. Et dans cette période horrible, parce qu'il faut bien dire ce qui est, ça fait du bien. Et moi, ça me fait du bien d'entendre ça. Ouais.
Puis ça donne envie de partir en vacances, ça donne envie d'être avec les gens qu'on aime, c'est un film qui rend heureux.
C'est joyeux, c'est drôle, ça fait du bien en ce moment. Quoi.
Et puis c'est bien joué, on n'a pas eu le temps de parler de tous les personnages, donc c'est pour ça que vous allez aller découvrir tout cela au cinéma. Merci beaucoup. Et puis surtout, ne bougez pas, Clap continue dans un instant. Je serai en compagnie de Victor Bonnefoy et Franck Vallière pour vous parler de l'actualité des sorties salles. A tout de suite sur Europe 1.
Clap, Laurie Choleva sur Europe 1.
Vous êtes bien à l'écoute de ce Clap émission spéciale cette semaine en direct de Roland-Garros. Et même si aujourd'hui on parle beaucoup de tennis, on continue de vous conseiller sur les nouvelles sorties cinéma. Alors au programme ce week-end, une comédie merveilleuse aux allures de conte de fées, mais aussi une autre comédie sur les dessous égocentriques du cinéma. Et on parlera de la nouvelle adaptation d'un thriller magique et horrifique. À mes côtés, Franck Vallière et Victor Bonnefoy qui sont au cinéma, ce que Nadal et Djokovic sont au tennis, des pépites.
Oh, c'est gentil ça.
Bel accueil.
On en a eu des comparaisons, mais celle-là, elle est quand même très très sympa.
On peut se dépêcher de finir l'émission parce qu'il y a le cours central qui nous attend pour la finale dame.
C'est vrai, à 15h, c'est la finale dame. Mais avant de commencer, un mot sur le box-office. C'est peut-être quand même la semaine la plus facile pour découvrir le leader du box-office.
Alors, je suis sûr qu'il a des gros avions. Hein
forcément, mais oui, Top Gun, 1 530 000 spectateurs. C'est quand même impressionnant. Hein. Le score est dingue. Maverick cumule déjà plus de 300 millions de dollars de recettes dans le monde.
Waouh, c'est gigantesque. C'est vraiment une machine, Tom Cruise. Hein. Encore une fois, il prouve que quand il arrive sur le box-office, c'est toujours terrible. On attend les prochains Mission Impossible pour voir si ça va perdurer.
Et c'est le meilleur démarrage de la carrière de Tom Cruise aux États-Unis. Alors la concurrence se partage ensuite les miettes. À la deuxième place, on retrouve une idée, Victor ?
C'est forcément du Marvel, quelque chose comme ça. Oui, forcément.
Doctor Strange avec 340 000 tickets vendus, soit à ce jour 2,8 millions de spectateurs dans les salles. Et puis en bas du podium, hein, c'est dur, mais bon, on est quand même content pour elle. C'est le film d'Audrey Dana, Homme au bord de la crise de nerfs, avec 103 000 spectateurs. C'est parti pour notre journal des sorties. On continue avec une comédie, on commence avec une comédie espagnole, compétition officielle, avec à l'affiche Penélope Cruz et Antonio Banderas. Le film raconte comment un milliardaire veut faire un film pour pouvoir laisser une empreinte dans l'histoire. Il va engager pour cela le meilleur acteur, la meilleure réalisatrice, mais tout ne se passe pas forcément comme prévu avec les égos de chacun. C'est assez compliqué. C'est une véritable mise en abîme décalée sur les rouages du cinéma. Franck Vallière, vous avez beaucoup aimé?
Évidemment, ça parle de cinéma et on est vraiment au cœur du réacteur, encore une fois. C'est-à-dire qu'on voit des gens faire du cinéma et faire comme bien souvent ça se fait. Pas tout le temps, mais du coup, comme il y a énormément d'ironie, ils sont en train de répéter pour la plupart du temps du film dans une espèce de fondation qui semble les placer comme des rats dans un laboratoire. Et on observe de plus ou moins près. Si vous aimez le cinéma, en tout cas, c'est vraiment le moyen idéal de se rendre compte que c'est de l'art cinématographique, à la fois pour le jeu des acteurs, puisqu'ils travaillent vraiment différentes thématiques, et puis on a vraiment l'impression de voir quelque chose se faire, et ensuite le film tombe dans bien autre chose que nous ne dévoilerons pas. C'est assez verbeux, ça parle beaucoup, mais si encore une fois, si vous aimez le cinéma, c'est parfaitement indispensable à mon avis.
Victor Bonnefoy.
Moi j'aime pas mal aussi Compétition officielle qui m'a fait rire. J'ai une petite limite avec le film, c'est que je trouve qu'il y a quelques longueurs, pour être tout à fait honnête, mais si on nommait ça, c'est quand même assez passionnant de voir ce cinéma qui parle de cinéma, et surtout qui est un film plutôt cruel, et ça c'est intéressant parce qu'on a beaucoup débattu, je rentre de Cannes si vous ne le savez pas, on a beaucoup débattu
si vous nous avez manqué d'ailleurs.
Vous m'avez manqué aussi, voyons, vous m'avez manqué. Non mais du coup on a beaucoup débattu du dernier film de Ruben Östlund qui a remporté la Palme d'Or, Triangle of Sadness, qui est un film qui se veut cruel mais qui est juste bête, et donc là c'est un vrai film cruel avec ses personnages, cruel avec son milieu, mais n'oublie pas de faire du cinéma, souvent avec de la mise en abîme, du film dans le film et de la manière dont tout ça va être filmé, dont tout ça va être mis en scène, servi par des comédiens de talent qui jouent vraiment brillamment. Le duo Banderas-Penélope Cruz n'a plus rien à prouver et encore une fois, ça marche très très bien.
C'est fantastique, Banderas, on oublie à chaque fois quel bon acteur il est.
Mais oui,
quand il a l'occasion de développer autre chose que du Zorro, et on se dit,
mais il le dit quel acteur. Dans le film, il a cette image d'acteur qui est parti aux États-Unis faire des trucs un peu prout-prout, mais quand il revient faire du vrai cinéma, et ben c'est le meilleur. Il le prouve encore une fois, c'est le meilleur.
Allez, on écoute vos réactions maintenant en sortie de film.
Formidable, j'adore. C'est pour ça qu'ils étaient là. J'adore tous les trois. C'était très bien.
Pas mal. La fin part un peu en cacahuète. Ça aurait pu être un peu plus court.
Tous les acteurs et tous les comédiens devraient le voir. Monsieur Frémaux du Festival de Cannes. C'est une belle petite bombe.
Très bien, j'ai adoré. C'est une grande performance d'acteur et le scénario est fantastique.
Je pense qu'Antonio Banderas et Oscar Martin, c'était un très bon duo dans les films et avec Penélope Cruz aussi. C'était vraiment très bien.
Et on continue avec Firestarter, un film de Keith Thomas qui signe une nouvelle adaptation du roman roman Charlie de Stephen King. C'est un thriller fantastique et horrifique avec Zac Efron notamment dans le rôle de Charlie, donc un enfant doté de super pouvoirs très puissants qui doit échapper à une organisation qui veut utiliser sa pyrokinésie à des fins malveillantes. Avec ses parents, elle va apprendre à contrôler ses facultés magiques. J'espère
ou pas.
Que j'ai été ou pas.
Oui, tout à fait, c'est un peu le pitch, oui.
On va écouter tout de suite la bande-annonce. On en parle juste après.
Ramenez-la-moi vivante.
C'est pas vrai. Tu sais ce que c'est que de vivre en cavale?
Des types nous poursuivent. Ils sont très méchants.
J'en ai marre de cette vie!
Tu es exceptionnel, Charlie.
Je suis pas exceptionnel! Je suis un mort!
Je veux l'aider.
Vous voulez l'utiliser?
Elle a de vrais, super pouvoirs.
Tu dois apprendre à t'en servir. Tu ne dois pas le subir. C'est toi qui décides.
Une enfant effrayante.
Oui,
Victor
tout à fait.
Bonnefoy.
Et un film qui ne l'est pas. non, c'est quand même terrible. C'est quand même terrible parce que moi, Keith Thomas, c'est un réalisateur où j'avais très très hâte de voir son second long métrage parce qu'il s'était déjà fait repérer avec un film qui s'appelait The Vigil, qui était vraiment passionnant. Un film d'horreur qui utilisait justement toute une partie de la communauté juive où on doit garder un corps avant sa mort, etc. Et qu'est-ce qui se passe quand le corps revient à la vie et commence à venir nous hanter pendant cette garde? C'était vraiment passionnant et donc j'avais très très hâte de le voir dans l'écurie Blumhouse faire un film comme Firestarter adapté de Stephen King. Et c'est raté! C'est vraiment très raté, c'est nul, c'est mal réalisé. Zac Efron est botoxé jusqu'à la moelle et on se demande si une partie du budget est pas partie dans ses joues. C'est quand même assez terrible à quel point les effets spéciaux sont pétés. C'est vraiment, ça me rend très triste la réalisation de Keith Thomas qui avait l'habitude d'avoir très peu de dialogue et beaucoup de mise en scène. Bah là, il y a trop de dialogue et pas assez de mise en scène. C'est une grosse déception et il faut mieux voir l'adaptation des années 80 qui est quand même un peu plus réussi.
De Mark Lester, qui est le réalisateur mythique de Classe 84.
Tout à fait, et avec en méchant George C. Scott, le héros de Hardcore de Paul Schrader.
Alors effectivement, c'est la deuxième version. Il y a même eu une version télé d'une suite quand elle est devenue plus grande, mais c'était pour la télé, c'était complètement bidon. Le problème de ce film-là, c'est que c'est comme une raquette de tennis à deux manches. Une fois qu'on l'a vu, on se dit, mais à quoi ça sert? Et la réponse, Victor vous l'a donnée. Que vous dire de plus? Un truc amusant, c'est que c'est donc Carpenter qui fait la musique, en partie, au moins.
Oui, tout à fait, parce qu'il devait réaliser le premier des années 80, et au final, ils se sont dit, bah reviens quand même pour la musique, et il fait le service minimum.
Et en fait, ils auraient mieux fait du fidèle à rien, parce que, entre parenthèses, le réalisateur se permet de paraphraser visuellement Carpenter. Il y a une scène avec un chat où c'est du pur Carpenter, mais alors sans Carpenter, le style, quoi. Ouais.
Voilà, après, c'est dans le livre, cette scène avec le chat.
Oui, mais elle est réalisée comme un Carpenter, c'est ça que je voulais dire.
On écoute quand même les avis des spectateurs.
Oh oui.
Allez.
Pas mal. Ouais, c'est une nouvelle de Stephen King. Une bonne adaptation du livre. C'était bien fait. Ouais.
Moyen, franchement moyen, sans plus. Il y a l'idée, mais franchement, sans plus.
Ouais, j'ai bien aimé. C'était pas terrifiant, c'était vraiment plus surprenant en fait.
Zac Efron.
Bah, ça change des rôles dont on a l'habitude de voir de lui. Donc, ça fait plaisir de voir qu'il peut faire autre chose que ce qu'on a pu voir avec High School Musical, etc.
Bon,
voilà.
C'est pas si...
Bah oui, mais bon.
Ça passe, ça passe. Et évidemment, c'est magnifique. On en parlait la semaine dernière en compagnie d'Alice Paul, le nouveau film de Clovis Cornillac, également un documentaire sur la reine Elisabeth II. Merci à tous les deux, Franck Vallière, Victor Bonnefoy. C'est déjà la fin de ce clap en direct.
C'était trop court. Oh mon Dieu,
je sais tes matchs. Et oui, c'était trop court, c'était une belle émission. Je vous rappelle donc qu'aujourd'hui je recevais une partie de l'équipe du film Champagne, Sylvie Testu, Nicolas Vanier et Eric Elmosnino. Tout de suite vous avez rendez-vous avec William Lémergie. Et nous on vous donne rendez-vous bien sûr la semaine prochaine avec ce mot d'ordre: n'oubliez pas d'aller au cinéma et puis restez à l'écoute d'Europe 1.
Bon week-end.
Bon week-end.